franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la privatisation de la première chaîne de télévision française, TF1, en 1987. La télévision est un sujet sensible par excellence, source de pouvoir, de fantasmes, de critiques et d'euphorie, aujourd'hui comme hier. Tiens, lancez une conversation sur le sujet, en famille ou avec des amis, et vous les verrez se passionner comme si le sort du monde, voire leur vie, en dépendait. Voyez aussi les polémiques suscitées par les déprogrammations, les changements de grille ou de présentateurs. Voyez enfin tous ceux qui tueraient père et mère pour apparaître à la télévision comme si c'était rater sa vie que de ne pas passer sur le petit écran, qu'on soit professionnel des médias ou non. En 60 ans, la télé est ainsi devenue un objet de notre quotidien, un bien public dans l'audiovisuel du même nom, et sur l'autre rive, un bien privé, une entreprise dont le chiffre d'affaires est lié à la publicité, au nombre d'abonnés, à la part d'audience et aux parts de marché. À l'arrivée d'un nouveau chef et d'une nouvelle stratégie, tout l'enjeu est de changer le produit, c'est-à-dire les programmes, sans perdre les consommateurs, c'est-à-dire les téléspectateurs. Ainsi est faite la loi de la télé privée, celle qui a vu le jour pendant les années 80 sous François Mitterrand et Jacques Chirac, quand le secteur télévisuel fut offert aux investisseurs. Et l'un des principaux tournants dans cette histoire, c'est bien sûr la privatisation de TF1, première chaîne du service public mise en vente un jour de mai 1986 par le gouvernement de Jacques Chirac. Cette bataille fut longue, médiatique, inattendue et secrète entre un roi du béton, Francis Bouygues, et un géant de l'édition, Jean-Luc Lagardère. Chacun avait promis la lune, l'un d'eux l'a remporté. Bien, mais que reste-t-il de ces promesses? Qu'est devenue la première chaîne publique? Après le récit, nous recevrons Jean-Claude Raspienjas, journaliste à La Croix, ancien grand reporter à Télérama. Nous reviendrons avec lui sur cette campagne et sur les premières années de TF1, passées du service public au secteur privé, des promesses de mieux-disant culturel à la part de cerveaux disponibles. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice L'Aigle, à la technique aujourd'hui Benjamin Lagatinet.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Bonjour.
Mai 1986, rue Cognac-Jay. Ici, au 15 de cette rue sans âme, bat le cœur de la télévision française. Depuis près de 40 ans, c'est le même ballet qui recommence tous les matins. Des voitures chargées de journalistes et de techniciens se serrent entre des caisses, des caméras, de micros et de bobines de films. Des entrées et sorties, jour et nuit, des petites mains et artistes de la technique, reines et rois des directs, duplex ou divertissement, et parfois on aperçoit le visage connu de présentateurs, de vedettes de la chanson ou du cinéma, ou bien de personnalités politiques. Entre ces murs, un jour d'été 1949, fut diffusé le premier journal télévisé français sous la houlette de Pierre Sabagues. Chaque jour, muni seulement de trois caméras 16 mm, lui et ses acolytes inventent le journal télévisé français. Ensemble, ils bricolent, développent, montent à la hâte, ciseaux et colle à la main, et enregistrent enfin la voix off au dernier étage. La télévision est alors une affaire d'amateurs, journalistes débutants, imaginatifs et innovants. Durant ces années, la télé est un luxe. Alors si vous n'avez ni les moyens ni d'amis fortunés, eh bien c'est devant les vitrines de grands magasins que vous pouvez suivre ces balbutiements chaotiques et les premiers événements historiques et télévisuels. Mais au fil du temps, la télévision se modernise et devient un spectacle pour tous. Enfants ou parents, désormais, on scrute les dernières pages de la presse pour consulter les programmes télé. Les enfants de cette génération gardent en mémoire les génériques d'émissions cultes comme des marqueurs puissants de cette époque. Ce sont nos madeleines cathodiques.
Oh!
C'était le temps de tirer la fronde, 5 colonnes à la une, les dossiers, l'écran, Interville ou la séquence du spectateur. Durant cette décennie, la télévision entre dans le salon des Français et tente de s'échapper de ceux de l'Élysée. Eh oui, comme tout média, la télé est une source de pouvoir. Alors, mandat après mandat, chaque président de la Ve République entame sa révolution télévisuelle. Sous De Gaulle, en 1964, on crée l'ORTF, l'Office de Radiodiffusion Télévision Française, qui a pour but de moderniser le service public télévisuel et radiophonique et, je cite, « de satisfaire les besoins d'information, de culture, d'éducation et de distraction du public ». Ça fait rêver. À l'arrivée de Georges Pompidou, le corset du contrôle étatique sur les rédactions se desserre un peu. Mais c'est Valéry Giscard d'Estaing qui retourne la table. En 1974, il dissout l'ORTF en 7 sociétés, dont 3 chaînes de télé, Antenne 2, FR3 et la première de toutes, TF1. Le 6 janvier 1975, en prime time, les téléspectateurs découvrent le tout nouveau générique de la chaîne. Ce soir-là, Georges Decaune, le père d'Antoine, enfile l'habit du maître de cérémonie. Pendant toute la soirée, lui, l'ancien présentateur du journal, expose aux téléspectateurs les nouveaux rendez-vous de la chaîne. Sur le banc, on reconnaît les stars du petit écran. Daniel Gilbert, qui présentera midi première. Michel Drucker, qui se chargera des après-midi. Ou encore Jacques Martin, cigarette à la main, qui annonce la naissance du petit rapporteur. Un journal hebdomadaire qui, selon sa formule, fusillera chaque dimanche l'actualité de façon inédite. Déconner l'actualité, comme le dirait aujourd'hui Charline sur France Inter. Bref, des émissions à succès qui font les belles heures de la première chaîne publique. 6 ans plus tard, le 10 mai 1981, Valéry Giscard d'Estaing est remercié par les Français. François Mitterrand lui succède. Et comme pour chaque nouveau locataire de l'Élysée, la télévision est un dossier dont il veut s'occuper, personnellement. Le changement commence par un changement de tête. Les stars et les présentateurs, soutiens affichés du candidat déchu, sont éconduits. La France de gauche avait demandé la tête d'El Kabbach, elle l'a eue. Avant que le même El Kabbach, d'ailleurs, ne devienne le journaliste testamentaire de François Mitterrand, l'histoire est parfois facétieuse. Et d'ailleurs, en 1984, 3 ans plus tard seulement, c'est le même François Mitterrand qui dérégule le secteur télévisuel. Il lance la première chaîne à péage, Canal+, confiée à son ami André Rousselet. Et puis, en 1986, 2 nouvelles chaînes voient le jour. La 5, sous la houlette de Silvio Berlusconi, et TV6, dirigée par le patron de Publicis, Maurice Lévy. Les loups sont entrés dans la bergerie. Quelques semaines après l'ouverture de ces 2 canaux privés, la gauche perd les élections législatives. Jacques Chirac fait son retour à Matignon. Si le président poursuit ses grands travaux architecturaux, le Premier ministre, lui, rouvre le chantier de l'audiovisuel. Le 14 mai 1986, au micro de l'Assemblée nationale, François Léotard, son ministre de la Culture et de la Communication, présente sa réforme de l'audiovisuel. Et il annonce une mesure choc, la privatisation de TF1.
La privatisation est en effet un élément essentiel si l'on veut éloigner l'État de l'information, réduire l'importance du secteur public et favoriser sans trop tarder l'existence d'un secteur privé de qualité, c'est-à-dire de création. TF1 sera privatisé, l'importance de son audience lui permettra de faire face à la concurrence, tout en supportant un niveau d'obligation de contribution à la création au moins égal au niveau actuel.
Ce 14 mai, le 15, rue Cognac-G est à vendre. Alors, qui décrochera la timbale et à quel prix ? En 1986, TF1, c'est l'histoire d'un renouveau. Hervé Bourges, journaliste, ancien président de RFI, positionné à gauche, prend les rênes de la première chaîne. Sa mission, rénover l'image de TF1 et remonter les audiences. Pour cela, le président Bourges s'entoure d'une nouvelle équipe et fait confiance à des présentateurs atypiques comme le jeune Patrick Sébastien. C'est lui qui lance ce jeune artiste du musical à la tête de soirée de divertissement. Le présentateur met sur orbite un nouveau style de show. Il joue la comédie, imite, chante et invite parfois des politiques. Pour ceux qui n'acceptent pas de laisser leur costume au vestiaire, l'émission 7 sur 7, désormais orchestrée par la journaliste Anne Sinclair, est le plateau où il faut être invité, the place to be. Et ce ne sont que des émissions parmi d'autres, mais toutes leaders sur leur tranche. On pourrait également citer Avis de Recherche, de Patrick Sabatier, Droit de Réponse, de Michel Pollack, ou bien encore le trésor de l'immense Yves Mourouzi, surdoué, transgressif, et de Marie-Laure Augry, qui l'accompagne. ce moment-là, personne n'imagine que TF1 puisse être vendu. Certes, tout au long de la campagne, Jacques Chirac et les siens ont annoncé leur volonté de privatiser une ou deux chaînes. Tous pensent alors que le choix se fera entre Antenne 2 et FR3, surtout Antenne 2. Et pourtant, c'est la Une et ses succès qui sont mis en vente par le gouvernement. Dans les rangs de l'opposition, les réactions sont vives. Le député socialiste Jack Lang, ancien locataire des bureaux de la rue de Valois, est le plus virulent. Il parle de TF1 comme d'un symbole, d'un bien commun. Pour lui, la première chaîne n'appartient ni à un gouvernement, ni à des partis, ni à des groupes privés, mais à tous les Français. Le soir même, François Léotard se rend dans les locaux de Cognac G pour répondre aux questions du 20h de la première chaîne. Pendant de longues minutes, le ministre explique les contours de sa future loi relative à la liberté de communication et il relativise surtout le choc de l'annonce de la privatisation de TF1.
TF1 représente aujourd'hui 7% du secteur de l'audiovisuel public, 7%. 1500 personnes qui ne sont en aucune manière menacées sur 18 000. Il faut donner ces chiffres-là aussi. Donc il faut ramener tout ça à un peu plus de sérénité. Pourquoi cette loi ? Excusez-moi de vous le dire, il y a une majorité, elle légifère, il y a un gouvernement, il gouverne. Et je suis étonné qu'on s'étonne. Ça figure dans les propositions de l'ancienne opposition depuis des mois. Nous avons reçu tous les présidents, tous les directeurs, tous les journalistes qui le souhaitaient. Aujourd'hui, je reçois tous les réalisateurs qui le souhaitent. Beaucoup d'entre eux, une majorité probablement, n'ont pas les mêmes opinions politiques que moi. Je les écoute et je recevrai, j'ai vu qu'on le souhaite, tous les syndicats qui le demanderont.
François Léotard poursuit son raisonnement. Il pointe du doigt la chute de la production de programmes français et le déferlement de séries américaines. Pour lui, la télévision doit se réinventer. D'un point de vue pratique, le ministre explique les étapes de la privatisation. La procédure sera à la charge d'une nouvelle instance, la CNCL, Commission Nationale de la Communication et des Libertés. Comme ses prédécesseurs, les nouveaux locataires du pouvoir promettent l'indépendance et la transparence dans ce processus. Les possibles acheteurs devront répondre à un appel d'offres précis dont l'un des axes déterminants sera les ambitions culturelles. François Léotard parle même d'un principe le mieux disant culturel. Quelques jours plus tard, il est interrogé sur ce même sujet sur le plateau L'Heure de Vérité par François Giraud.
Quand vous parlez du mieux-disant culturel,
c'est une
très jolie formule, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Vous permettez que je fasse un peu de mime ? Okay. Comme dirait mon ami Philippe de Villiers, je suis en situation de spectacle vivant. Je suis la commission. J'ai devant moi des gens qui veulent acquérir cette chaîne, qui sont des investisseurs. Sur quoi je me détermine ? Je ne me détermine pas sur le prix. Je me détermine sur ce que chacun est capable de proposer en termes de programme, et notamment de création française. Et tout simplement, la personne qui viendra devant moi et qui me dira « Monsieur la Commission, ou Madame la Commission, je mets 350 heures de programme français, mon voisin en met 250, eh bien, c'est moi qui aurai l'attribution. » Et ça, je peux vous dire que cette compétition-là, au plan culturel, elle est la seule de nature à remporter le morceau.
Mais la seule chose importante, ce n'est pas les promesses qu'on fait, c'est les sanctions en cas de non-respect.
C'est formidable parce que vous allez me permettre de développer la loi. La commission en question, que nous avons appelée Commission nationale de la communication et des libertés, eh bien, aura la possibilité de retirer l'attribution si jamais le cahier des charges n'est pas respecté.
Est-ce que vous ne préférez pas 150 heures, par hypothèse, 150 heures de bonne fiction à 300 heures de mauvaise fiction en matière de création ?
Écoutez, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement, tous les dessins animés ou la quasi-totalité des dessins animés qui sont proposés à nos enfants sont des dessins animés d'origine japonaise. Le vrai problème, c'est de savoir si la France est en mesure de gagner la guerre des images. Moi, je veux la gagner, cette guerre. Moi, je ne regarde pas le passé, je regarde demain. Eh bien, demain, si vous ne voulez pas avoir tous les soirs des programmes américains, des programmes japonais, bientôt des programmes sud-coréens, eh bien, il faudra qu'on arrive à avoir une production française.
En un mot, pour gagner, il faut jouer la surenchère. Et des initiatives contre la privatisation voient le jour. Des journaux entrent dans la bataille, comme Télérama et l'événement du jeudi. Ils rédigent une pétition et déposent à Matignon plus de 200 000 lettres contre cette mesure. Le 7 juin 1986, le Paris éducatif et culturel se retrouve place de la République pour une journée de concerts et d'interventions. On aperçoit Bernard Giraudot, Claude Sirillon, Noël Mamère, Michel Rocard ou Manu Dibango. Pour la première fois, des téléspectateurs prennent la rue. À la tribune ou dans la foule, c'est la même inquiétude.
Je me sens malheureux depuis quelques mois. Comme tous les acteurs qui travaillent avec des auteurs, avec des réalisateurs, avec d'autres acteurs, on a peur. Nous savons ce que nous avons. Un service public qui a ses défauts, mais nous ne savons pas ce qui nous attend.
Je pense que ça sera moins culturel, beaucoup plus de publicité peut-être. puis en même temps, moins de recherche.
Est-ce qu'une manifestation comme celle-là va suffire à changer des décisions politiques?
Certainement pas. Certainement pas, ça servira à rien.
De fait, le 30 septembre 1986, la loi dite Léotard est adoptée. La haute autorité de la communication et de l'audiovisuel est dissoute et remplacée par cette commission nationale de la communication et des libertés. Et comme pour inaugurer ses droits, cette commission procède à l'éviction des PDG d'Antenne 2, de FR3 et de Radio France. Des proches du RPR les remplaceront, comme ça c'est clair. D'ailleurs, les sages de la CNCL ne sont pas élus. Ils sont nommés, notamment par le président de la République et par les présidents des deux chambres législatives. Autant dire qu'on ne nomme pas d'opposants au gouvernement. Le cordon ombilical entre la télé et le pouvoir est encore solide. D'où les chasses aux sorcières qui sont lancées dans le sillage d'une alternance politique. Et dans l'épisode 1986 de ce spoil système à la française, seul Hervé Bourges, patron de TF1, sauve sa tête en attendant l'arrivée des nouveaux propriétaires. Bon joueur, il met à disposition toutes les pièces du dossier et promet de recevoir l'ensemble des candidats au rachat. Après le vote de la loi, une poignée de prétendants hésitent, puis se désistent. Au début de l'année 87, deux impétrants se déclarent officiellement Hachette et Bouygues, du béton et de l'édition. Hachette avec à sa tête Jean-Luc Lagardère par favori. En 1986, il rachète la station de radio Europe 1. Acteur reconnu du livre et du secteur de la communication, Lagardère charge son numéro 2, Yves Sabouret, de constituer la meilleure équipe. Très vite, les noms d'Étienne Moujotte, journaliste et directeur de Télé 7 jours, et de Jean-Louis Guillard, ancien président de TF1, filtrent dans la presse. À trois mains, il se charge de rassembler le plus de partenaires possible, le plus pertinent et la meilleure grille liant culture et croissance de l'entreprise. La candidature de Francis Bouygues, elle, est plus surprenante, presque ubuesque. Dirigeant et fondateur de la première société de BTP au monde, il souhaite diversifier sa société mais n'a jamais mis les pieds dans le secteur de l'audiovisuel ou de la communication. Pourtant, rien n'est frais, ce chef d'entreprise. Après tout, un appel d'offres reste un appel d'offres. Il suffit de s'entourer de bonnes personnes. Pour cela, il charge Patrick Lelay, ingénieur en travaux publics. C'est lui qui est l'architecte du dossier. De dîner en dîner, il rencontre, auditionne et embauche les professionnels de l'audiovisuel. Avec son président et ses collaborateurs, il rencontre un par un les membres de la CNCL. Rien n'est laissé au hasard, un dossier béton. La loi de septembre 1986 prévoit que seulement 50% du capital de la chaîne nationale sera cédé à un groupe d'acquéreurs dont aucun ne pourra détenir plus de 25% des parts. Tout l'enjeu est donc de trouver des alliés assez ambitieux pour risquer leur argent, mais pas trop, pour qu'ils acceptent le rôle de second. Une question reste en suspens et non des moindres, celle du prix. Le 5 février, chaque camp est posté devant son écran de télévision. Dans un salon du ministère des Finances, Édouard Balladur, accompagné du ministre de la Culture, François Léotard, annonce le prix d'achat de la chaîne. Pour être candidat, il faudra rassembler la somme de...
vite son quart d'heure, sort d'une église.
Combien coûte TF1? Quelle est cette somme? 3 milliards de francs. Chaque candidat a jusqu'au 23 février, date limite du dépôt des dossiers, pour rassembler un consortium d'acquéreurs et la somme demandée. 23 février 1987, rue Jacob. Dernier jour pour déposer son dossier. À minuit, il sera trop tard. Alors, toute la journée, des journalistes sont sur place, scrutant l'arrivée de l'un ou de l'autre prétendant. Peu avant l'ouverture des 20h, Francis Bouygues, accompagné de ses collaborateurs, dépose un dossier de 300 pages, joliment empaqueté dans d'élégantes caisses bleues. Devant la presse, il annonce les noms de ses partenaires, dont le principal n'est autre que Robert Maxwell, un géant de la presse anglo-saxonne. Avec lui, le patron du béton français se paye une légitimité et une ambition internationale.
Attendez.
Nous ne créons pas une télévision nouvelle. Nous sommes repreneurs d'une très grande télévision qui existe.
D'après vous, quelles sont vos chances?
Vous savez, quand on combat, c'est toujours pour gagner. Et toute ma vie, j'ai combattu. Quelquefois, je n'ai pas réussi, mais souvent, j'ai réussi et j'ai réalisé des grandes choses.
Et Lagardère? Les minutes passent, puis les heures, mais aucun signe du camp d'Hachette. Officiellement, on parle d'un problème d'impression des dossiers. Officieusement, le problème est bien plus grave. L'annonce du prix de la chaîne a fait fuir le groupe Havas, son principal partenaire. Jusqu'au dernier jour, Jean-Luc Lagardère et son équipe doivent batailler pour réunir un tour de table capable de signer le chèque. La situation est si alarmante que Matignon, ne pouvant pas laisser concourir un seul candidat, doit jouer lui aussi les entremetteurs. Et sous la pression du gouvernement, la banque BNP devient le dernier partenaire du camp Hachette. Peu avant minuit, la directrice de la communication d'Hachette dépose les dossiers du groupe. Pourtant, le mal est fait. La mésaventure de Lagardère et la présence de la BNP s'ébruite. Pendant que l'un bétonne, l'autre détonne. En effet, c'est cette banque, la BNP, qui doit se charger de l'audit commandé par le gouvernement pour l'évaluation de TF1. Oh, le conflit d'intérêts. Pour le camp Bouygues, l'erreur est trop belle. Dès le 4 mars, dans une lettre rendue publique, Francis Bouygues demande des explications sur la conformité du dossier d'Hachette. Alors pour éviter la crise, la CNCL valide les deux dossiers, mais demande à Hachette de trouver un remplaçant à la BNP. Cela n'empêche pas Francis Bouygues de déposer un recours gracieux devant la CNCL pour demander la disqualification du groupe. Peu à peu, l'outsider marque son territoire, le favori Hachette, lui, perd de sa splendeur. Donc, tout se jouera lors du grand oral. Vendredi 3 avril 1987, rue Jacob, toujours. Dans un hall un peu exigu, deux tables se font face. Ici se déroule la dernière bataille pour TF1. Toute la journée, les deux camps vont présenter leurs dossiers et leurs partenaires. Face à eux, les 13 sages de la commission, dont leur président Gabriel Debreuil. À 10h, c'est lui, bien sûr, qui ouvre les auditions par ces quelques mots.
Mesdames, Messieurs, nous procédons à l'audition des candidats à l'acquisition de 50% du capital de TF1. Cette audition se déroule au siège de la CNCL, en présence de représentants de la presse, et est retransmise en direct par TF1.
Hachette est le premier à passer. Sa prestation se résume en deux mots, compétence et ambition. Compétences d'abord avec la Dream Team d'Hachette, composée des fleurons de la presse et des médias de l'époque. Sur les bancs, on reconnaît Étienne Moujotte, directeur de Télé 7 jours, ancien du JDD, de RTL, de France Inter, d'Europe 1 et de RTF. André Fontaine, à la tête du journal Le Monde. Bernard Porte, PDG de la 7 Presse, ou encore Christine O'Krent, ancienne dame du 20h d'Antenne 2. Ambition enfin, comme les défis annoncés pour la fiction et l'information. Le groupe s'engage à produire au bout de 10 ans 600 heures de programme par an de création, soit 4 fois plus que la production de 1986. De plus, il annonce l'augmentation du volume des programmes d'information. Nouveaux rendez-vous, nouveaux magazines, nouveaux journaux. Tout est dit, la présentation est propre, limite universitaire, sans éclat ni tracas. À 15h, Francis Bouygues se présente à son tour. Le style est, disons, différent. Face à l'assurance d'Alain Gardère, Francis Bouygues joue la carte de la décontraction. Et on s'aperçoit qu'il manie l'art de la communication comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il faut dire que depuis 4 jours, son équipe répète minutieusement l'exercice. Réunis au siège du groupe Bouygues à Clamart, les principaux intervenants apprennent leur texte. Et dans le rôle du metteur en scène, on retrouve un certain Bernard Tapie, qui fait partie également des partenaires financiers. Écoutons-le interpeller Antoine de Clermont-Tonnerre, PDG des Éditions Nationales, dans une bande-son du Media Training extrait des documentaires Fin de concession de Pierre Carle.
Vous allez faire chier tout le monde. Alors que là, j'ai dit ce que je voulais dire. La politique de la production pour nous, c'est relever la production française qui est en faillite. Alors on achète les feuilletons à l'étranger et on gave nos enfants de séries débiles. Alors nous, on veut donner à ces auteurs français, à ces écrivains français, à ces producteurs, la possibilité de nous montrer ce qu'ils savent faire. On va doubler les budgets qui ont été jusqu'à présent prévus pour ça. Et vous allez voir que les Français se passionneront bien plus pour les œuvres de talent françaises que pour les séries qu'on voit qui nous abrutissent sur la télé actuellement.
Et le jour du grand oral, tout se passe comme prévu. Antoine de Clermont-Tonnerre a pris de l'assurance, Evelyne Prouveau un peu de présence. Tour à tour, Francis Bouygues présente ses partenaires, de Robert Maxwell à Jacques Duquesne, sans oublier son bras droit, architecte en chef du dossier Patrick Lelay, à qui vient la charge de présenter le projet. Pour lui, la candidature de TF1, ce sont d'abord des principes.
Le projet de reprise de TF1 que nous vous présentons aujourd'hui est bâti autour de quelques idées simples. Tout d'abord, respecter le téléspectateur. C'est-à-dire ne pas abîmer ce qu'il aime, protéger ses rendez-vous familiers, protéger les émotions qu'il doit à la Une et les services que la Une lui rend. Mais au-delà, qu'est-ce qui intéresse le téléspectateur? C'est naturellement qu'on lui propose plus d'images, plus de feuilletons, plus de magazines, plus de sport, plus de directs, plus d'informations. Dans notre projet, nous allons lui proposer plus d'images, beaucoup plus d'images.
Et il poursuit par ces mots.
En second lieu, nous avons cherché à donner une dynamique nouvelle à la création française. Faire absorber au public français des séries américaines, ce n'est pas une fatalité. La culture française est menacée, c'est vrai. Mais la culture française doit résister, parce que la culture, elle exprime le besoin et le plaisir de vivre ensemble, parce que la culture exprime une vraie communauté de mémoire, une vraie communauté de projet.
Reprenant les constats du ministre Léotard, Patrick Lelay fait valser les chiffres et les promesses autour du mieux-disant culturel. Il promet qu'à partir de 1989, le groupe Bouygues investira 537 millions de francs en production de fiction et de documentaires de création, 250 millions en émissions de variété, 174 dans le sport, 130 pour la jeunesse et 500 heures d'œuvres originales françaises en première diffusion. Au fil des questions-réponses, la surenchère se poursuit, comme lors de cette intervention de Bernard Tapie qui se prend à rêver de soirées de musique classique.
Juste une seconde. La grande musique, la musique classique, je crois qu'on doit en plus être événementiel. On doit pouvoir traiter l'année Ravel, ou on doit pouvoir traiter l'anniversaire d'Olivier Messiaen. On doit aussi pouvoir montrer, après avoir montré que la musique était la noblesse du son, quelle est la noblesse de l'image? Parce que voir un instrument ou la colophane sur un archet de violon, c'est impossible lorsqu'on est un spectateur, et c'est fabuleux lorsqu'on est un téléspectateur. Donc promouvoir le spectacle et le faire vivre d'une manière autrement, je crois que c'est essentiel.
Tapie va plus loin, il parle de soirée pod-basque, mais aussi de son envie du retour de l'émission au théâtre ce soir. C'est que sur le banc des sages, il y a Pierre Savag, créateur de cette émission, fine mouche, Tapie l'a bien noté. Peu après 17h, les auditions se terminent. Les dés sont jetés. Qui remportera la mise ? Samedi 4 avril 1987, c'est officiel, Bouygues l'emporte par 8 voix contre 4. Il n'a fallu qu'une matinée aux sages pour délibérer. Hachette, le candidat favori soutenu par Matignon, vient le perdre par KO. Le jour même, Francis Bouygues visite les locaux de Cognac-G en présence d'Hervé Bourges et Yves Mourouzi, la star du 13h, salue à sa façon son nouveau patron en se coiffant d'un casque de chantier.
Vous remarquerez, en vous souhaitant la bienvenue sur le plateau de la Une, que je porte encore le casque de TF1, mais dès demain, c'est prévu, le casque de la privatisation.
Onze jours après la victoire, c'est plongé dans les paillettes et les bulles de champagne qu'on enterre au Port Marly, la première chaîne publique. Ce soir-là, point d'oraison funèbre, juste des smokings et des stars venus fêter l'an zéro du TF1 privatisé. Le lendemain, Francis Bouygues transmet officiellement le chèque au ministre des Finances, Édouard Balladur. La première chaîne publique de la télévision française n'est plus. Le 6 mai, le nouveau président présente son organigramme. Numéro 2, Patrick Lelay. Puis viennent Étienne Moujotte, directeur général de l'antenne, Christine Ockrent, directrice générale adjointe, Michel Cotta, directrice de l'information, Yves Mourouzi, conseiller à la présidence. De nouvelles têtes d'affiche sont également nommées, comme Patrick Poivre d'Arvor, qui prend la barre du 20h. Tandis que restent des noms plus anciens rattachés à l'histoire du service public, comme Michel Polac, qui à la rentrée sera le premier viré de l'ère Bouygues. Son émission Droit de réponse sur les travaux du pont de l'île de Ré, réalisé par l'entreprise Bouygues, précisément, et un dessin caustique où l'on pouvait lire « Maison de maçon, un pont de maçon, une télévision de... » n'ont pas été du goût de la direction. L'actionnaire dirige, les salariés obtempèrent, la première télévision publique n'est plus. En 1992, les dernières équipes de Cognac-G quittent le 15 de cette rue. Désormais, la chaîne a sa tour, ses idées, son ambition. TF1 est entré dans l'ère des actionnaires, de la publicité, des courbes d'audience. C'est un produit marchand. 30 ans plus tard, TF1 est-elle devenue la télévision du mieux-disant culturel, de la musique classique en prime time, des programmes de jeunesse liant éveil et apprentissage, de la limitation des fictions américaines et anglo-saxonnes? Il suffit de regarder la chaîne pour obtenir la réponse. À vous Cognac-G, à vous les studios, à nous les dividendes. Voilà. Un peu de pub? Non, de la musique avec les Buggles. Video killed Radio Star, sauf nous.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la privatisation de TF1 avec notre invité Jean-Claude Raspien. Jas, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. À part pour les fidèles du masque et la plume, dont vous êtes un habitué, je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes responsable du service culture du journal La Croix, ancien journaliste à Télérama, journal qui avait publié un long dossier sur la privatisation de TF1. Alors, revenons au début de l'histoire, Jean-Claude Raspien. Jas, le 14 mai 86, donc François Léotard annonce à la surprise générale la privatisation de TF1. Mes souvenirs, moi, ne sont pas assez clairs, donc je vous pose la question. C'était quoi l'image de cette chaîne à l'époque? Est-ce qu'elle avait déjà ce côté commercial? Parce qu'elle aurait pu être une chaîne publique avec un penchant un peu commercial, non?
Non, pas du tout. Elle avait une image un peu conservatrice, mais d'un service public un peu austère, qui avait maintenu la barre face à Antenne 2, qui, après l'ère des groupes, c'est-à-dire à partir de quand des groupes avaient pris avec Chancel, quand Chancel et Marcel Julien avaient défini Antenne 2, et l'information ensuite, plus tard avec des groupes, avait une image de très grande liberté, d'originalité, enfin il y avait beaucoup de programmes, et à côté, TF1 était une chaîne un peu plus pépère, quoi. Mais n'avait pas du tout ce côté commercial, non, bien sûr.
Bon, alors pourquoi a-t-on choisi de privatiser TF1 et non pas Antenne de l'époque? Je parle pas de France 3, parce que ça aurait été compliqué de détricoter le tissu régional, les collectivités locales, ça aurait été vent debout, ça c'était trop risqué, c'est pas possible. Et Antenne 2, on pensait à Antenne 2, je me souviens qu'on pensait toujours à Antenne 2 d'abord. Pourquoi pensait-on ça? Et pourquoi au bout du compte, ça a été TF1?
Alors pourquoi on pensait à Antenne 2? Parce que c'était la chaîne la plus remuante, c'est-à-dire que les gouvernements successifs avaient eu maille à partir avec Antenne 2, qui manifestait un esprit d'indépendance, d'originalité, d'inventivité, qui n'avait pas toujours séduit. Et par exemple, l'ère des groupes, il faut quand même se souvenir que quand des groupes a pris l'information, on a fait voter une loi spécialement contre lui pour le faire dégager. C'est-à-dire, c'est la fameuse loi des 65 ans, où tout responsable de l'audiovisuel public, enfin des entreprises publiques, devront dégager. C'est une loi qui n'a été faite que pour virer des groupes. Et qui d'ailleurs n'a pas été appliqué véritablement par la suite, ou plus ou moins, mais c'est une loi anti-dégroupe. Donc, il fallait se débarrasser de cet esprit un petit peu comme libre. Ça, de liberté. Oui, libre, c'est ça. Donc, on pensait tous que ça allait être ça. Et ça a été TF1, parce que plus grosse audience, parce que, rayonnement de TF1. C'était le gros morceau TF1.
Alors, dès l'annonce, une partie de l'opinion, l'a dit, et de la presse, dont Télérama, se mobilise. D'ailleurs, en juin, un mois après l'annonce, la place de la République, on l'a raconté, le théâtre de la première manifestation de téléspectateurs. Pourquoi cette mobilisation? Parce que vous sentiez immédiatement qu'on allait passer d'une chaîne de service public, avec ses valeurs, bon, un peu pépère, mais avec ses valeurs, à quelque chose d'autre, quoi. Une autre planète, vous l'aviez senti immédiatement?
Mais non seulement on l'avait senti, mais on avait des exemples. C'est-à-dire que quand Mitterrand a donné la 5 et la 6, mais quand il a donné la 5 à son copain Berlusconi, on a vu tout de suite ce que c'était. C'est-à-dire, on savait qu'en Italie, ça a confiné au désastre. Mais quand on a vu arriver Berlusconi, mais c'était tellement sidérant. C'est-à-dire, on n'en revenait pas. Donc, on savait ce qui allait se passer. Je veux dire, cette histoire de la prise de TF1 par Bouygues et cette fameuse audition devant la CNCL, c'est un des scandales de la Ve République. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous dites affaire sensible, mais c'est un des scandales.
C'est l'affaire d'État.
Mais oui, c'est un scandale. Et alors, là où c'est le plus étonnant, mais c'est normal, plus c'est gros, plus ça passe. C'est-à-dire que c'est un hold-up qui est fait à visage découvert. C'est filmé en direct. Ils partent avec le magot et en plus on les remercie, on les félicite. Écoutez, franchement, voilà. Et surtout, ils ont, ce qui est assez extraordinaire, c'est l'impunité dont ils ont tous joui depuis 87. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de reconduction, il n'y a jamais eu, la représentation nationale ne les a jamais repris au mot. Qu'est-ce que vous avez promis? Qu'est-ce que vous avez fait de vos promesses? Rien, jamais. Et que la reconduction a été automatique. Alors qu'il était question naturellement, puisque c'est une concession, de revenir sur ce qu'ils avaient promis, ce qu'ils avaient fait. Chaque année, le CSA, qui a succédé à la CNCL, les a condamnés pour des tas de manquements qui vont de la violence au langage, enfin tout. Ils avaient des amendes, ils ont pris des grosses amendes. Au moment de la reconduction, paf, comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que c'est vraiment un hold-up, mais total, parfaitement réussi. Et l'astuce finale de ce groupe-là, c'est d'avoir inventé LCI. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'histoire de l'audition de la CNCL, il faudrait y revenir, c'est tellement ahurissant. Mais ils inventent LCI. LCI, c'est pas par le goût de l'information qu'ils l'inventent. C'est que ça va leur permettre de recycler des hommes politiques en permanence. Quand vous avez invité des hommes politiques 3 à 4 fois par semaine, vous pouvez pas imaginer qu'ensuite ils vont s'acharner à essayer de vous enlever ce qui constitue votre magot. Donc c'est ça l'astuce. La CNCL, premier temps, deuxième temps, LCI, c'est gagné.
Alors, double peine pour ceux qui pensent comme vous, c'est que TF1 aura pu se casser la figure, en quel cas ça aura donné un espoir peut-être de revenir à la formule d'avant, mais TF1 est devenue une chaîne extrêmement puissante, l'une des plus puissantes d'Europe, je crois que son journal, c'est fini maintenant, hein, ça y est, il est retombé son piédestal, parce qu'il y a la concurrence, parce qu'il y a l'éclatement, parce qu'il n'y a plus la messe du 20h.
Non, c'est même pas une double peine pour nous, c'est une défaite totale. C'est-à-dire qu'on est une génération et un certain nombre de gens dans ce pays qui croient au service public, qui étaient un peu les héritiers d'une histoire du service public de la télévision, et à l'époque, Télérama incarnait véritablement ça, et on a perdu. Mais au-delà de nous, il se trouve que Francis Bouygues, devant la CNCL, dit « Ce pari difficile, prendre TF1 pour nous, conditionne l'avenir de notre société et celui de nos enfants. » Il a parfaitement raison, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'esthétique TF1, le langage TF1, les réflexes TF1, Bouygues, quoi, a contaminé tout le reste du PAF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a singé TF1. Et c'est un désastre de toute façon. On peut parler dans le détail, on peut isoler telle ou telle émission, mais c'est un désastre jusque dans le mode de narration, du réel, de tout ça. Enfin bref, c'est un désastre.
Alors, on va écouter ensemble une archive que je trouve saisissante, extrait de l'émission Vivement Dimanche de Michel Drucker. On est en 2005. Il invite François Léotard, qui a retiré des affaires, enfin celle-là en tout cas, et qui donne son sentiment sur ce qu'est devenu cette première chaîne qu'il a contribué à faire vendre dans son projet de loi qui est devenu une loi et une réalité.
Est-ce que 20 ans après, vous seriez toujours d'accord pour privatiser TF1?
Alors si vous me laissez quelques instants, je vais vous dire, je pense...
Question
que,
très importante.
Bien sûr, non, je crois que je ne regrette pas de l'avoir fait. Ce que je regrette, c'est ce qui en a été fait. C'est pas la même chose.
À l'époque, on parlait de mieux-disant culturel.
Oui, parce qu'on a essayé d'imposer des choses. L'image qu'on a vue entre Bourges et Bouygues est extraordinaire. Mais quand je vois la première compagnie, je suis pas très à l'aise. Pas très franchement, j'ai un peu honte. Je me dis, mais c'est pas ça que je voulais.
Oui, la première compagnie, c'est le nom d'un jeu de télé-réalité, enfin ce qu'on appelle la télé-réalité, mais ce sont essentiellement des choses mises en scène, enfin bon, où est la réalité? Bref, des anciennes personnalités, espérant encore quelques minutes de gloire, de Jean Roucas à Jean-Pierre Castaldi, ont vécu pendant 7 semaines au rythme d'un camp militaire. Effectivement, on est bien loin du mieux disant culturel, mais enfin quand même, cet acte de quasi de contrition de François Léotard, il vous touche?
Ah non, pas du tout, alors là pour moi la boucle est bouclée, c'est-à-dire que jusqu'au bout, on nous aura gentiment enfumé, et c'est-à-dire que l'acte de contrition de Léotard, alors là, c'est une merveille, quoi. C'est-à-dire, il est ministre de la culture et il n'a pas la moindre idée que ça va déraper comme ça, mais il nous prend pour qui? À l'époque, quand en 86, la droite est revenue, cette nouvelle majorité s'est empressée, mais empressée, de voter cette nouvelle loi dite Léotard. Ils la font voter en plein été. Et on a le commentaire d'un sénateur centriste, Jean Cluzel, qui n'est pas un gauchiste du tout, centriste, qui à l'époque avait dit « C'est une loi faite par des naïfs pour des malins. » La naïveté de Léotard, ça demande à voir. Les malins, on a vu.
Et on les connaît.
Et on les connaît.
Alors comment ils se débrouillent, les malins? Parce que vous me parliez des auditions, évidemment, ça a été important, ça a été déterminant, ou est-ce que la CNCL avait déjà son idée?
Oh, on en débat encore, mais d'une certaine façon, aujourd'hui, de toute façon, les carottes sont cuites. Ouais. Ce qui est assez rigolo, enfin rigolo, il faut le prendre à l'envers, c'est qu'à la fin de leur audition, il y a deux sages, ce mot de sage déjà. Bertrand Labrusse qui dit « Je me réjouis des engagements pris et nous savons qu'ils seront tenus ». Ah bon, d'où il sort ça, lui? Roger Bousignac qui dit « Monsieur le Président, nous venons, dit-il à Bouygues, nous venons d'admirer votre projet ». Alors on en est là. Alors, il y a de quoi? C'est assez admirable. C'est-à-dire, moi, à l'époque, j'avais des enfants en bas âge. Quand j'ai écouté l'audition, parce que c'était filmé en direct, mais je me suis dit, je vais pas envoyer mes enfants à l'école. Je veux dire, je vais les mettre devant TF1. Ils vont perdre leur temps à l'école. C'est devant TF1 qu'il faut qu'ils soient. Mais on a oublié, parce que là où ça marche bien avec eux, c'est qu'on est tous amnésiques. On a tous oublié ce qui s'est passé ce jour-là. Mais on l'a très très vite oublié.
Bah, on est là, nous, pour rafraîchir la mémoire.
Mais c'est bien. Mais quand même, le lait dit, la Une entend susciter la curiosité du téléspectateur pour les sciences et les techniques, l'histoire et les arts, une présence régulière. Nous assurerons une présence régulière à l'histoire et aux sciences et techniques dans le programme et en participant à de grands événements artistiques. Ils vont même jusqu'à dire les dessins animés seront d'inspiration historique, il y aura des émissions d'initiation au théâtre pour la jeunesse, aux sciences, à l'éveil artistique, dans un langage contemporain et vivant. Il parlait même de faire des programmes de formation professionnelle, mais tout était plus c'est gros, plus ça marche. Alors évidemment, on a les fameuses sorties de tapis que vous avez rappelées, mais il voulait faire des émissions spéciales pour l'anniversaire de Messiaen, mais il devait se marrer, c'est-à-dire il devait se dire, mais plus on va avancer, ils ont dû se marrer comme des bossus à la fin de cette audition, quand même.
Alors, deux morales à cette histoire, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, et puis tout ça c'est juste une illusion, comme le chantait Jean-Louis Aubert, précisément en 1986. Claude Raspien-Jas, on va parler d'un personnage important et qui est devenu haut en couleur. Pourtant, c'était pas, il était plutôt austère au départ. C'est Patrick Lelay. Patrick Lelay avec sa fameuse phrase, vous savez, le cerveau humain disponible. Alors, on va être journaliste honnête, hein, et on va donner le contexte de la phrase, soit la phrase complète. Alors, il dit, en 2004, Patrick Lelay, soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. C'est ce que nous vendons à Coca-Cola. Voilà. C'est du temps de cerveau humain disponible. Alors ce genre de phrase, c'est quand même très très lourd. C'est à la fois un aveu, c'est cynique. Pourquoi a-t-il besoin de dire cela, à votre avis ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ?
Parce qu'il était temps qu'enfin quelque chose de vrai soit dit. Et moi, je sais gré à Patrick Lelay d'avoir dit cette phrase. Je fais pas partie de ceux qui le lui reprochent. Au contraire, c'est dans toutes ces années de grands mensonges, c'est probablement la seule parole vraie qui a été prononcée. Et c'est la plus juste. C'est exactement. Et quand il dit c'est le métier de TF1, il a tout dit. Donc tout ça était évidemment un grand bluff, une énorme opération de passe-passe. C'est un truc de bonneto, quoi. Mmh. Et quand il dit ça, mais moi j'applaudis dès demain. C'est-à-dire qu'enfin, il dit la vérité.
Mais parce que ça, il exprime des regrets?
Aucunement.
Aucunement.
Aucunement. Mais pourquoi il en exprimerait-il? Jamais il en a exprimé. Nous, on est allé le voir au moment de la fausse reconduction, et ça s'est très très mal passé.
Alors, en 97, pour les 10 ans, vous l'interviewez, hein, vous faites un papier, comment ça se passe?
Ils ont vent qu'on prépare un dossier, et c'est eux qui nous appellent, et qui nous disent, voilà, on est prêt à parler, on aimerait bien discuter avec vous, tout ça. Ils savaient bien qu'on était, nous, en guerre ouverte contre la privatisation de TF1, donc on s'est dit, on y va. Et c'est moi qui ai préparé l'interview, et j'avais pris comme principe, non pas de lui poser des questions, mais de revenir avec l'audition de la CNCL et de prendre page par page. Quand on arrive, il y a Étienne Moujotte qui est juste avant Lelay et qui nous dit, vous savez, moi j'étais avec le groupe Hachette, bon, mais enfin, je suis allé dans le groupe Bouygues, et avec Patrick Lelay, on répond les mêmes choses, il n'y a pas de souci, vous comprenez bien, bon, très bien. Et donc je commence, j'ouvre le truc et je commence. Alors, donc, vous avez promis ça, où est-ce qu'on en est, tout ça. Et Moujotte se barre tout de suite. Il s'en va et il nous laisse face à Lelay. Et Lelay prend ça très, très, très mal.
Parce que vous avez dû lui dire, voilà, vous aviez dit ça, voilà ce qui se passe. Vous aviez dit ça, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il répond? Il faut bien qu'il justifie.
Alors, il est furieux, il m'insulte, il dit c'est du stalinisme, c'est du terrorisme, vous n'avez pas le droit de faire ça, de toute façon, vous êtes un gauchiste, je sais où vous habitez, vous n'allez jamais en province, enfin, tout y passe. Et d'un moment, je lui dis, attendez, qui vous êtes pour faire ça? Je dis, écoutez, vous avez pris ces engagements devant la France entière. Eh bien, normal, naturel, qu'à un moment, on vous demande 10 ans après, voilà, et sans esprit polémique, où est-ce que vous en êtes de ça? Pourquoi ça s'est pas fait? Et tout le long, il était d'une agressivité totale. Bon, bref, on a fait l'interview, on est quand même allé jusqu'au bout, au milieu des insultes, tout ça. À la fin, il refuse de me serrer la main, très bien. On descend au parking avec son directeur de la communication, qui nous dit « ça s'est pas bien passé ». Ben non, ça s'est pas bien passé. Et qui nous dit « on va faire un débriefing avec Patrick et Étienne, on vous rappelle demain ouais. ». Et le lendemain, il nous rappelle et il nous dit « voilà, on a fait un débriefing ». Donc, naturellement, on ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas, il n'y a pas eu d'interview.
Qui a donc?
Et à l'époque, à Télérama, on a dit bah, « très bien, on fait la une et on publie ». Voilà, c'est tout simple.
Bon, vous fait votre boulot de journaliste, quoi.
Voilà.
Alors, j'en profite pour le dire à nos auditeurs, nous avons proposé à Patrick Lelay d'être le témoin de cette émission. On le prenait pas mal, hein, Jean-Claude.
Mais, ou bien au contraire.
Hein, vous n'êtes pas un témoin résiduel, loin de là, loin de là. Bah, bon, il se trouve que Patrick Lelay a annulé hier matin pour raisons professionnelles. Voilà, je vais juste le dire. Bon, dites-moi, un retour de TF1, évidemment, dans le secteur public, bah, ça pas du tout dans l'air du temps. On n'imagine absolument pas une privatisation. J'imagine que vous ne caressez aucun espoir de revoir TF1 dans le giron public.
Alors, cet espoir, on l'a caressé un tout petit peu à une période. C'est-à-dire que nous, on avait des contacts avec certains ténors du PS à l'époque. Et moi, je me souviens de conversations avec certains ténors, et j'ai la charité de ne pas donner leur nom aujourd'hui, qui m'assuraient que quand ils reviendraient au pouvoir, ils feraient tout pour renationaliser ça et qu'on en finirait avec ce cirque-là et avec cette honte-là. Donc j'ai la charité de ne pas donner leur nom, mais on voit ce qu'il en est. Et de toute façon, je vous répète, l'histoire de LCI a noué cette affaire. Mmh. Et aujourd'hui, on ne la dénouera plus. Si je peux mettre juste une chose, en 2004, quand Lelay fait ses déclarations, c'était en juillet, en novembre, l'ARP, qui est l'association des réalisateurs et des producteurs, fait un DVD de cette audition de la CNCL et va l'envoyer aux sénateurs, aux députés et aux principaux responsables des partis politiques en disant « quand est-ce que vous allez prendre vos responsabilités ?» 2004, meilleur résultat.
Rien. Bon, dites-moi, le mieux disant culturel, la télé éducative, on la trouve sur le service public. C'est France 5, c'est Arte, c'est parfois France 2, France 3. C'est plus difficile parce que ce sont des chaînes généralistes, un peu plus compliquées. Mais tout de même, une partie de leur programme est intéressante. Vous regardez la télé encore aujourd'hui?
J'ai cessé de la regarder depuis 7 à 8 ans.
Donc vous écoutez la radio?
Oui, beaucoup. Bien. Beaucoup.
Votre regard sur le paysage radiophonique français, il reste 10 secondes.
Ah ben moi j'adore le service public, et vive le service public, et tenez bon, tenez bon.
Très bien, on vous retrouve bientôt pour un masque et la plume?
Ben, j'espère.
Parfait, à bientôt donc, Jean-Claude Respinjas. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la privatisation de TF1, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.